Salon-Rente, les 6 et 7 novembre 2024, à Paris Expo, Porte de Versailles. En partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Imo.
Et oui, on continue en direct du Rent. Vous êtes bien sur Radio Imo. On est ravis de vous faire vivre cet événement, le Rent 2024, deux jours à la Porte de Versailles. Pendant lesquels on va recevoir plein de monde. Hein, Sylvain Lévy-Valency, comment vous allez?
Je suis tellement heureux de vous revoir.
Mais moi aussi, vous m'avez manqué. Hein.
J'en connais même un en technique qui est tellement heureux de vous revoir.
Oui, dédicace à Jason. On reçoit aujourd'hui, Sophie Richard. Bonjour.
Bonjour.
Gérante fondatrice de Viagimo. Alors Viagimo, vous allez nous représenter ce réseau. Donc vous ne faites que du viager. Expliquez-nous.
Vous êtes une viagériste.
Exactement, expert viagériste. Alors Viagimo, c'est un réseau national des experts de l'immobilier spécialisés 100% en viager, nue propriété et de la gestion viagère également, parce qu'on assure la gestion, la relation entre le vendeur et l'acquéreur à la suite de la conclusion de la vente.
Ah alors, bon, on peut faire ça?
Oui, et ben on l'a créé. Voilà.
Alors justement, vous allez nous expliquer les différents types de viager, parce que c'est vrai que quand on parle de viager sur nos antennes, pour nos auditeurs, le viager, c'est toujours la même chose. C'est vrai que ça avait, voilà, on paye jusqu'à ce que la personne qui occupe le bien décède et on récupère le bien après. Donc
tout à fait. Voilà. Alors, on a souvent une vision assez étriquée finalement, ouais, et peu réaliste de la vente en viager, parce que tout le monde pense qu'il n'existe que le viager occupé. Alors certes, il représente la majorité des ventes, environ 70 à 80% des ventes. Donc c'est simple, c'est le vendeur qui fait le choix de rester vivre dans le logement et il a une aide financière pour assurer le financement de sa dépendance éventuellement ou se faire plaisir, tout simplement.
Donc ça, c'est le viager occupé.
Ça, c'est le viager occupé. Et l'acquéreur, lui, achète un bien décoté, c'est-à-dire qu'il fait un placement dans l'immobilier qui reste une valeur refuge par excellence, de manière décotée. Il n'a qu'un seul occupant, c'est le vendeur, et exit tous les tracas locatifs qu'il pourrait y avoir avec d'autres investissements. Et la fiscalité est allégée, on pourra y revenir par la suite. Donc ça, c'est le viager occupé. Et à hauteur de 20%, qui prend un peu plus de part de marché, il existe le viager libre. Et il est assez méconnu finalement. C'est le choix d'un vendeur qui quitte soit sa résidence principale, soit qui a une résidence locative ou une résidence secondaire qu'il n'occupe plus. Il décide de le vendre d'une autre manière, en viager et pas en vente traditionnelle. Et je pense notamment aux vendeurs qui ont une résidence locative et on leur dit « t'as plus le droit de louer parce que le logement il est énergivore, donc il faut que tu fasses des travaux. » Sauf que le vendeur, passé 75 ans, il n'a plus l'envie, il n'a pas forcément l'argent et le logement devient vacant. Alors que grâce au viager libre, un acquéreur va pouvoir acheter le logement. C'est comme si le vendeur, c'est un crédit vendeur, c'est le banquier en fait. On va payer de manière échelonnée dans le temps le prix du logement et l'acquéreur va pouvoir habiter de suite le logement. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour les acquéreurs, notamment je pense aux primo-accédants soit ne sont pas suivis par leur banque, soit sont suivis mais pas à la hauteur de leurs prétentions. Et ils vont pouvoir accéder à la propriété grâce à ce mode de financement.
Donc ça, c'est 20% des viagers.
Voilà, il y a une dizaine d'années, quand je me suis spécialisée dans la vente en viager, la part de marché, c'est à peu près 10%. Donc, on a fait pas mal de contenu pédagogique au bénéfice du grand public pour expliquer que le viager libre existait et que c'était un mode d'accession à la propriété. Et ce qu'on développe de plus en plus depuis un an et demi, c'est le viager mix. C'est la combinaison entre le viager occupé et le viager libre. Par exemple, vous avez une maison qui est devenue trop grande pour un vendeur. Une maison à étage, par exemple.
Le propriétaire vivrait au-dessus, par exemple.
Exactement.
Non.
Donc,
alors, comment ça fonctionne?
Donc là, le viager mix, on va vendre la partie en rez-de-chaussée pour le vendeur, puisqu'il est plus accessible. Donc, on va adapter le logement avec une chambre au rez-de-chaussée, la salle de bain,
etc. Une personne âgée qui ne monte plus l'étage. On adapte le logement au rez-de-chaussée.
Exactement.
Il a un bel espace au deuxième.
Et puis au premier étage. Et donc là, l'acquéreur avec une entrée indépendante va pouvoir habiter le premier étage. Ça veut dire que l'achat sera réduit économiquement pour l'acquéreur. Il va quand même être propriétaire de la totalité de la maison.
Au final,
mais avec un différé de jouissance pour le bas. Et on voit bien que
c'est l'usufruit qui reste
au vendeur pour le rez-de-chaussée. Et ça plaît beaucoup aux enfants, notamment des vendeurs, parce que des maisons qui sont isolées un petit peu en rétro urbain. ils vont avoir justement une personne qui sera tout le temps là dans la maison. Si les volets sont fermés pendant 2-3 jours, il y a une personne voilà, qui pourra porter assistance éventuellement à la personne.
Mais ça, il faut que le plan de la maison le permette.
Oui, mais ça peut être aussi une dépendance. Oui. Je vois dans les
vous
campagnes...
Vous êtes sûr que la personne portera assistance
Oui, parce que voilà, je crois quand même dans la bienveillance, dans le bien fondé des relations humaines.
Mais
en fait, on a lancé le dispositif il y a à peu près un an et demi. On a fait une trentaine de ventes depuis et on voit que ça plaît énormément parce que c'est de la cohabitation intergénérationnelle.
Ouais. On en parle beaucoup.
Mais finalement, ça résout les deux problèmes. Le type achète moins cher, beaucoup moins cher. Il sait qu'il va avoir la totalité du bien à terme.
Exactement.
Et en même temps, il est logé à court terme.
Exactement. C'est comme s'il faisait un investissement locatif avec un locataire unique, mais il ne va pas recevoir de loyer puisque le logement a été décoté tout de suite. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a pas de revenu foncier à déclarer. Ça ne vient pas alourdir sa fiscalité.
Ah oui.
Il est titré de la totalité de la maison. Et ce qu'on on lance, alors bon, je ne sais pas si la société est encore prête, mais on commence à lancer ce dispositif aussi, c'est de réveiller la belle endormie du bail à nourriture. Donc le bail à nourriture.
Le bail à nourriture, qu'est-ce que c'est vieux ça ?
Sylvain, en tant que juriste, ça va te plaire. En fait, c'était très usité dans nos campagnes françaises entre parents et enfants.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on portait, pas assistance, parce que l'assistance, c'est encore autre chose qui est définie par le Code civil, la dette alimentaire. Là, c'est en échange du patrimoine immobilier, l'acquéreur va pouvoir... délivrer des services. Par exemple, aller faire les courses, emmener la personne chez le médecin, tondre sa pelouse, faire du ménage. Et il y aura une partie du prix qui sera payée comptant en euros et l'autre partie qui sera payée sous forme de service.
Alors après, il faut que ce soit bien encadré dans un
contrat.
Hein, parce que... c'est un contrat en nature, quelque part, en partie
exactement.
En nature.
Oui, parce que ça
c'est
peut vite... Il faut que ce soit vraiment... Vraiment très bien ficelé.
Exactement. C'est
mais
pour ça
raison
que...
quand tu dis que la société n'est pas forcément prête, mais c'est,
ça va
c'est vachement. Ça va, mais quand on voit la pression du logement,
oui.
Voilà.
Parce qu'on a des demandes, donc j'ai fait pas mal de communiqués de presse ces derniers temps pour essayer de préparer, en fait. Parce qu'il y a 10 ans déjà, quand j'ai commencé en 2012, le viager, il y avait encore plus d'idées reçues, préconçues, justement, sur le dispositif viager. Et on voit bien qu'avec de la communication, c'est avec une approche pédagogique qu'on arrive à faire tomber ces barrières psychologiques. Et donc, il faut prendre le temps, justement, que la société s'adapte et que les mentalités évoluent par rapport à notre démographie, hein, qui la société, on vit de plus en plus vieux, et tant mieux. Et donc, il faut s'adapter à cette nouvelle société. Donc, peut-être que l'année prochaine, je pourrais venir vous reparler du bail à nourriture, mais j'y crois profondément.
C'est incroyable parce qu'en fait, vous avez créé ce réseau, hein, c'est le premier réseau de viager en France, et vous poussez les tendances, en fait. Vous créez des tendances,
ouais,
on a l'impression.
Oui, c'est un challenge. Après, quand j'ai benchmarké justement mon marché il y a 10 ans, et je me suis dit, oh là là, c'est assez noir quand même. Pourquoi est-ce que... comment redonner les lettres de noblesse au dispositif viager ? Et je m'étais même dit, bah, c'est le mot viager qu'il faut changer. Je me dis, non, c'est tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Donc c'est en apportant du contenu, et c'est vrai que le passé de juriste m'aide beaucoup, notamment ouais. Le bail à nourriture, j'ai créé un mandat spécifique bail à nourriture, parce que c'est une vente qu'il faut vraiment très bien encadrer. Mais ça m'a beaucoup aidé justement pour avoir cette approche didactique avec du contenu, parce que quand vous informez les gens, et d'ailleurs merci de ce passage sur Radio Immo, parce que ça permet d'éveiller les consciences et que les gens disent « Ah, mais finalement, c'est quoi le viager ?»
C'est intéressant parce que, en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on parle à quelqu'un qui l'a fait, à un usager.
Mmh.
Je pense que ça devrait être intéressant. Quel retour est-ce que vous l'avez défait ? Vous l'avez déjà vendu ?
Oui, j'ai déjà vendu.
Comment
alors,
ça marche ?
Alors,
qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors, par rapport au viager mix ou au bail à nourriture ?
Par le bail à nourriture.
Alors, le bail à nourriture, en fait, on va conditionner, donc on va déterminer un prix de vente du bien immobilier. Mmh. On va le décoter en fonction de l'âge et du sexe des occupants. Et on aura la valeur occupée. Sur cette valeur occupée, on va déterminer, en fonction des besoins du vendeur et du marché...
Un quantum de la valeur du service.
Exactement. Avec aussi...
Mais ça vient au-dessous du
adossé...
prix de vente.
Alors, en fait, le prix de vente sera payé de deux manières. Une partie en monétaire... parce qu'on assure quand même une rente viagère, et une partie en service.
En service, ouais.
Et donc les services...
Donc service à la personne.
Et exactement.
Mais ça ne change rien au bouquet, par exemple.
Alors, le bouquet fera partie...
C'est en fonction, et c'est une équation,
du prix,
en fait.
Voilà, du prix, de la valeur occupée.
D'accord.
En fait, c'est un mode de financement.
Et ceux qui l'ont fait, qui vivent avec eux, qui vivent ensemble, comment, voilà,
alors,
vous avez une bonne relation avec
eux ? On fait en sorte d'avoir un logement séparé, et notamment par rapport au compteur, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de revendre de l'énergie, notamment, et il faut quand même qu'il y ait une accessibilité séparée.
Mmh. Mais dans la manière de vivre, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Alors, dans la manière de vivre, donc par exemple, je pense à quelqu'un, il y a un potager qui est adossé au rez-de-chaussée. La petite mamie, elle n'y va plus, elle n'a plus l'envie. Les enfants descendent de l'acquéreur, ils font le potager ensemble, ils lui ramènent les légumes. Et en fait, ça fait de la vie. Et on voit bien
qu'il s'occupe de la mamie, de temps en temps, ils dînent ensemble.
Voilà, donc en fait, alors je ne sais pas ça s'ils dînent ensemble, mais en tout cas, il va l'emmener. Donc lui, c'est faire du ménage et puis l'emmener faire des courses ou chez le médecin. Et il y a une très bonne entente, il y a des enfants. Les enfants des vendeurs, sont tous...
Alors, je vais être pessimiste,
sur le vieillissement, tu sais, des populations.
Je vais être pessimiste, mais si jamais l'acquéreur ne fait pas sa part du job. Si par exemple, vous parlez de ménage, le ménage est mal fait, la personne qui vend n'est pas satisfaite. Voilà. Est-ce qu'elle peut se retourner ?
Toute la difficulté en droit, et Sylvain pourra me le confirmer, c'est la charge de la preuve, rapporter la preuve. Donc après, dans le contrat, on va mettre en place une clause résolutoire. C'est comme si vous ne payez plus votre loyer ou vous n'assurez plus vos conditions dans un contrat d'assurance, par exemple.
Okay. On prononce la cessation du service est un cas de clause résolutoire.
Mais oui, parce que ça fait partie du prix.
Ça fait partie du prix, oui.
Exactement.
Ouais. Bah oui.
Mais c'est pour ça qu'il faut être très vigilant justement à un encadrement, parce que ça peut être touchy aussi. Donc, faut faire attention.
C'est pas simple, hein.
Ouais. Non, c'est pas simple, mais c'est ça qui est intéressant.
C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit bien ficelé au niveau du contrat. Il faut vraiment que ce soit bien fait et par un professionnel, en tout cas.
Exactement. Dernière question, Bérénice, sur le marché.
Oui, sur le marché. Et puis après, juste un petit point sur le Rennes, quand même.
Oui.
Marché, du coup, alors là, vous êtes situé dans toute la France.
Oui, donc alors Viagimo s'est développé dans un angle national. Donc on a deux agences à Paris, en Guadeloupe, dans le Nord. Enfin, voilà, bien répartis sur tout l'Hexagone.
Donc qu'est-ce que vous constatez au niveau du marché?
Au niveau du marché, c'est vrai qu'on ne subit pas...
Vous résistez mieux. Hein,
on ne subit pas tant que ça la crise de l'immobilier. On le ressent, bien évidemment. Mais c'est vrai que la problématique de retraite est partout en France et dans toutes les régions de France. Et donc, on a vraiment toujours des vendeurs qui ont besoin de financement pour rester à domicile. Et on a toujours des acquéreurs qui veulent acheter sans le recours à l'emprunt. Et c'est vrai que notamment...
Ça a été favorable pour vous.
Exactement. On a eu tous les feux sont verts. On a un terrain de jeu assez formidable. Parce que à la fois on a eu la réforme des retraites, on a vu que la retraite est source de crainte pour beaucoup. On a eu un dossier sur deux qui était refusé à la banque, donc c'était compliqué d'acheter par un établissement prêteur. Donc le vendeur, lui, dans Viager, va jouer ce rôle-là. On a vu que les passoires thermiques étaient interdits à la location, et on sait que bon nombre de seniors ont ce petit pécule indispensable à leur retraite. Donc ils ont besoin d'un coup de pouce, donc on va vendre en Viager libre. Et puis cette cohabitation intergénérationnelle avec notamment la société à mission, parce qu'on est devenu société à mission depuis le 1er septembre.
C'est vrai.
Très rapidement. La société à mission, c'est une reconnaissance légale qui va valoriser l'utilité sociale d'une entreprise à travers sa raison d'être. Et comme je crois profondément... c'est vrai que Viagimo, en fait, je suis partie sur un réseau de franchise, donc c'est le premier réseau de franchise, mais au fil de l'eau, je me rends compte que j'aspire à ce que le Viager devienne un jour étatique. Et je suis profondément convaincue que ça peut répondre à beaucoup de maux de notre société.
En tout cas, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Pour finir, le Rent, quelles sont vos attentes pour cette édition? On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on va beaucoup en parler pendant ces deux jours.
On en a parlé tout à l'heure.
Quelles sont vos attentes? Il y aura du business, j'imagine.
Oui, alors après, je suis moins dans la frénésie, en fait, que beaucoup de collègues sur l'IA.
Comme beaucoup de professionnels, d'ailleurs.
Je suis un petit peu, peut-être, à l'ancienne juriste.
Non, au contraire, vous êtes dans le fondamental.
En fait, je suis moi-même autrice, en fait, de contenu juridique, pédagogique sur le Viager, donc je suis plutôt de l'autre côté en me disant comment vont être protégés mes droits d'auteur sur mes contenus. L'IA, effectivement, ça fait partie de l'écosystème, donc je le regarde un petit peu de loin pour l'instant. Et justement, venir au Rent, ça me permet de mieux comprendre, de mieux appréhender.
De vous acclimater.
Exactement. Mais pour l'instant, je suis pas ultra convaincue, mais la journée va peut-être me confirmer l'inverse.
Vous avez un stand ici ?
Non. J'ai eu un stand, et d'ailleurs, je disais à Sylvain, ma toute première radio, c'était avec Sylvain en 2017 au Salon Rent.
C'était Porte de la Villette.
Vous baladez pendant deux jours, recherche de peut-être une technologie, un outil qui pourrait vous changer le quotidien.
Et partager avec mes collègues aussi.
Eh bien, merci infiniment, Sophie Richard, Viagimo. On était ravis de vous recevoir. Et donc, c'est très intéressant. Et on a noté que vous publiez donc des contenus pour expliquer le Viager. Donc,
sur Viagimo.com,
n'hésitez pas. On a appris quelque chose.
Le bail à nourriture. Moi, je connaissais, mais je pensais que c'était révolu, cette histoire.
Non,
c'est de retour. Bon, merci infiniment, en tout cas. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour un prochain invité. Xavier Bellevaux sera avec nous. À tout de suite.
Salon Rent, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles. En partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Immo.